Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 5 minutes, vous êtes chez vous, ici, sur votre libre antenne, sur Europe 1, et jusqu'à 1h du matin, chers amis, nous sommes ensemble. Alors n'hésitez pas, vous pouvez continuer à nous appeler au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, et peut-être que nous aurons le plaisir d'échanger ensemble dans quelques minutes. Pour le moment, nous accueillons Frédéric au 39-21. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Frédéric ?
À Lyon, mais là je suis dans la région grenobloise.
D'accord, vous êtes en vacances ?
Pas tout à fait. En fait, je suis, j'ai perdu maman il y a 6 mois.
Oui.
Donc je fais des va-et-vient entre le domicile de mes parents et ma ville de Lyon. Voilà.
D'accord. Alors, vous vouliez me parler du départ de votre maman qui est difficile ?
Avant, je voulais vous demander des nouvelles de votre voix.
Oh, ça va beaucoup mieux. En fait, c'était plutôt les dents. En fait.
C'était les dents. Oui. J'ai pensé.
Et ouais. comme vous pouvez le constater, tout est redevenu normal.
Tant mieux.
Non, ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup, Frédéric.
Non, c'est normal.
Alors, dites-moi.
Alors, donc en fait, c'est compliqué parce que là, il y a des enfants qui étaient petits bouts de chou qui sont morts dans un accident de voiture. Donc, c'est compliqué parce que je vais parler de la mort peut-être d'une manière qui n'a rien à voir avec l'actualité, si vous voulez.
Et la mort, sous quelque forme qu'elle soit, n'a rien à voir avec ce qui peut se passer dans la journée, ce qui vous touche aujourd'hui. Vous, Frédéric, comme... Chacun des auditeurs qui nous écoutent ce soir est très personnel et donc voilà, c'est on parle de la mort de cette, vous voulez nous parler du départ de votre maman et c'est ça qui compte. Bien évidemment, vous faites référence à ce qui s'est passé cet après-midi sur l'autoroute A7 qui est un drame terrible. Mais le monde vit au rythme des drames et des joies extrêmes, donc c'est le rythme, malheureusement, de la vie. Alors, je vous écoute.
Merci. Voilà, donc... en réalité, j'ai eu la... Comment dire à ma façon, en tant que petite fille, hein, j'ai eu très tôt conscience de la maladie, de la mort, parce que je suis arrivée tard dans la vie de mes parents et donc j'ai connu mes grands-parents dans leurs dernières années de vie. Je ne les ai pas tous connus. Et je me souviens être allée avec maman visiter notamment ma grand-mère qui est décédée il y a le moins longtemps par rapport aux autres. Elle est morte à 90 ans. Je me souviens être allée voir ma grand-mère lorsqu'elle a été hospitalisée. Et donc, c'est entré un petit peu en moi à ce moment-là. Mmh. Cette proximité avec le grand âge qui m'a semblé absolument pas triste. Et même s'il y avait des choses difficiles que je ne connaissais pas, ma grand-mère souffrait beaucoup, mais elle ne se plaignait jamais. Et donc voilà, il y avait des, comme vous dites, de très jolis moments au cœur de quelqu'un. Au cœur de la vie de quelqu'un d'une vie qui se terminait. Mmh. Et donc, ça a été quelque chose dont j'ai très vite pris conscience. Mais bon, sans y penser tous les jours, sans être vraiment consciente de toute la profondeur de ça. Et puis ensuite, j'ai grandi, j'ai commencé des études, mais ensuite je suis devenue infirmière. Et donc, si vous voulez, cette histoire de vie et de mort, elle s'est posée de bien des façons, finalement. Parce que dans ce métier, moi, personnellement, je n'ai pas de décès tous les jours, mais j'ai vu, effectivement, des personnes décédées. J'ai vu des personnes décédées seules. Ça aussi, je l'ai vu. Pour moi, c'est très douloureux quand j'y repense. Parce que dans leur dossier, je voyais le nom des enfants et il n'y avait personne.
Oui.
Voilà. Donc, la mort fait aussi partie de mon métier, même si c'est la vie qui est au cœur de notre démarche et le soin et l'accompagnement. Mais voilà, la mort en fait aussi partie. Et c'est ça, pour moi, la mort fait partie de la vie. Ça n'est pas un échec, si vous voulez. C'est pas facile à entendre ce que je dis, je sais, mais là encore une fois, c'est singulier, c'est ma propre pensée. Et en plus, je pense que si on vit aussi intensément chaque moment de nos vies, c'est parce que consciemment ou inconsciemment, on sait qu'un jour nous mourrons et on a conscience de ça. C'est très enfoui, mais on en a conscience. Voilà. Et donc, j'ai perdu maman il y a 6 mois. En fait, c'était hier la date anniversaire. C'était jour pour jour, hier, il y a 6 mois. Et maman, elle est partie sans prévenir. On s'est parlé un samedi soir.
Oui.
Et elle était... c'était une femme charmante. Elle était bien, elle s'était reposée, elle avait pu résoudre beaucoup de choses qu'elle avait fatigué les semaines précédentes. Et donc, elle m'a parlé de tout ça avec beaucoup de sérénité. Et puis ensuite, elle est allée au-delà. Elle m'a parlé de l'amour qu'elle avait pour ses enfants, elle m'a parlé de la confiance qu'elle avait en moi, ce qui n'est pas anecdotique parce que, elle sait que je n'ai pas confiance en moi. Donc, je pense que ce n'était pas du tout anecdotique. Et voilà, elle m'a vraiment reformulé cette confiance qu'elle avait en moi. Elle ne le disait pas toutes les 5 minutes. Voilà, elle l'a dit. Elle a beaucoup parlé de l'amour qu'elle avait pour ses enfants, ses petits-enfants, et combien elle avait aimé la vie. Et vous savez... J'ai pas pu comprendre, mais le lendemain matin, et elle m'a dit aussi à la fin de notre échange, je l'ai vraiment trouvé bien et ça m'a, j'en ai encore des frissons parce que c'était un moment charmant, vraiment.
Oui.
Et à la fin, elle m'a dit à demain, parce qu'elle savait que je l'appelais tous les jours.
Mmh.
Et elle m'a dit à demain. Et le lendemain, je l'ai rappelé, j'ai tenu promesse, ça ne répondait pas. Et comme je devais aller travailler, je me suis dit. Tu vas pas insister, tu risques de les déranger. Et puis je savais que j'allais m'inquiéter. Donc ne n'insiste pas, tu appelleras à la pause. Et à la pause, j'ai regardé le portable et j'ai compris. Je pensais que c'était papa, mais parce que papa est malade, maman était en bonne santé, mais non, c'était maman qui avait fait une hémorragie cérébrale.
D'accord. Oui, donc le soir où elle vous appelle, elle n'a pas
de symptômes.
Elle ne sait pas que le lendemain, il va se passer ça.
Non. Non. Ce dont elle témoignait depuis 6 mois environ, pas ces 6 mois là, mais des 6 mois avant son décès, c'était d'une fatigue beaucoup plus importante. Vous voyez, par exemple, elle m'a dit une chose qui est très touchante. C'est une femme d'engagement. C'était une femme qui avait toujours travaillé, même adolescente, parce que ses parents avaient un hôtel-restaurant. Elle avait toujours travaillé et là, elle me disait « Ah, tu sais Frédéric, je deviens paresseuse. » Alors, ça me faisait rire parce que c'est un peu un oxymore, vous voyez, d'avoir 90 ans et d'être paresseuse. Alors, je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit « Mais maman, c'est incompatible. » Et on a viré de ça. Elle me dit, mais si, je te promets. Avant, tu vois, le matin, j'avais envie de faire beaucoup de choses. Et maintenant, lorsque je me lève le matin, je suis déjà fatiguée. Mmh. Et ça, vous voyez, c'était les 6 mois qui précédaient. elle a fêté ses 90 ans, on ne les a pas fêtés, on n'a pas eu le temps. Elle a eu 90 ans en octobre et elle m'a dit, on a parlé de... Je lui ai souhaité un bon anniversaire et je l'ai encore remerciée parce que je la remercie souvent. Et elle m'a dit, tu vois, ça suffit. J'ai beaucoup aimé la vie, mais c'est assez long comme ça. Donc, vous voyez, il y avait quelque chose en elle de...
Oui, il y avait une fatigue.
En chemin, oui. Mm-hmm. Et vous savez, moi, j'avais décidé de les accompagner. Alors, quand je dis accompagner, ça fait un peu grandiloquent, comme ça. Mais pas du tout. En fait, j'ai rien prémédité, si on peut dire. C'est juste que papa est tombé malade. Il a déjà commencé par avoir une dégénérescence maculaire. Vous savez ce qui arrive aux personnes âgées, ce qui peut arriver aux personnes âgées. Donc, il a perdu la vue et ça a beaucoup changé son... Enfin, en tout cas, sa vue a été très, très...
Très impactée.
Très impactée. Donc, il a... Toute sa vie en a été modifiée, toute sa vie quotidienne. Mmh. Et donc, maman a un petit peu, à ce moment-là, pris en charge des choses qu'elle pouvait confier à papa avant. Et moi, voyant maman... ensuite, papa est tombé malade. Donc là, ça n'avait rien à voir avec son problème de vue, mais il a été hospitalisé. Il est resté entre la vie et la mort. Et donc, je suis arrivée tout de suite. Et finalement, bon, on a pu poser un diagnostic et trouver un traitement. Mais bon, ça, si vous voulez, ça, c'est du palliatif. Hein, c'est, voilà. Mais vous savez, il a un élan vital, papa, extraordinaire. Et il est toujours là. Et pourtant, voilà, c'est vrai que ça fait 5 ans qu'il est malade. Mais bon, j'ai vraiment deux parents exceptionnels. Et je voulais leur rendre hommage ce soir parce que les accompagner, c'est vraiment un grand mot. Parce qu'en fait, ce que je vous le dis pas parce que c'est vous, parce que je connais votre humanité, c'est pas ça du tout. Je vous le dis parce que je vous le dis comme un frère, vous voyez. C'est ce que je vois ce soir, c'est ce que j'ai reçu. Je vois pas ce que j'ai perdu. Je crois que rien n'est perdu. Mmh. Ce que j'ai pu voir dans ces années d'accompagnement, où j'ai quand même, j'étais pas totalement naïve, j'ai souhaité passer du temps avec eux le plus possible, mais je savais aussi que c'était pas pour m'agripper à eux ou pour prolonger la vie. C'était juste aussi laisser partir. C'est-à-dire être là avec l'affection que j'avais pour eux, mais et j'avais envie d'être patiente, je sais pas quels sont mes défauts et mes qualités, j'ai plein de défauts et j'avais envie, vous voyez, de leur donner un petit peu de douceur, de comment vous dire, de les mettre en avant aussi, ils m'ont beaucoup raconté leur passé, leur enfance, je pense que c'était des moments très forts pour nous.
Oui, oui. Et vous avez des frères et sœurs?
On est 5, oui.
Ah, vous êtes 5, d'accord.
Oui, on est 5.
Et comment cet événement-là, vous l'avez vécu les uns et les autres? Et ensemble, alors, en fait, comment?
C'est joli ce que vous dites. Alors, à la fois, il y a bien un ensemble. Vraiment, je peux en témoigner parce que c'est une fratrie. Mais vous savez, vous avez parlé avec Robert et moi, je suis la plus jeune. J'ai une sœur jumelle. Donc, avec laquelle, moi je suis un petit peu dépendante de ma sœur jumelle, mais ma sœur jumelle est très autonome. Donc, vous voyez, c'est pas toujours comme on l'a prévu non plus. Et ensuite, il y a une différence d'âge avec les trois aînés. Voilà. Donc, nous, si vous voulez, on a été, maman et papa ont désiré un quatrième enfant, 7 ou 8 ans après que les trois soient nés. Voilà. Et donc, en fait, on était deux. Voilà. On était deux.
D'accord.
Et pour répondre à votre question, parce que là, j'ai fait une digression. Excusez-moi.
Je vous en prie, je vous écoute.
Non, je vous en prie.
Non, je voulais savoir comment vous avez vécu ça ensemble, en fait. Votre sœur jumelle, si elle avait vécu les mêmes moments que vous, ou sans...
Alors, je sais pas, est-ce que c'est dû au fait que je suis infirmière, je sais pas, parce qu'en fait, moi, je voulais surtout pas être l'infirmière de papa et maman, je voulais vraiment être là, et vivre ce moment-là dans toute sa beauté, parce que y a bien sûr que mes parents sont devenus fragiles, papa a été hospitalisé 2 fois. Le traitement est devenu plus lourd, mais si, comment vous dire, il y a des moments de beauté. Et peut-être que ça, j'ai pas su assez le communiquer à mes frères et sœurs. Parce que c'est compliqué. Vous voyez, mes frères et sœurs, ils sont venus très régulièrement, mais ils ne couchaient jamais au domicile de mes parents, par exemple. Oui. Très peu. Et si vous voulez, et moi, le fait de dormir au domicile de mes parents, de leur apporter un petit café dans leur lit le matin, je sais pas, d'avoir une soirée, on aimait beaucoup la musique classique. Alors, je suis désolée, hein, c'est peut-être pas votre tasse de thé, mais on s'en fiche. De toute façon,
mais non, on s'en fiche complètement. Oui,
oui, c'est, puis la musique, c'est une seule et même chose. C'est
universel. Pour moi.
Voilà, il y a pas des musiques, il y a la musique. Voilà. Voilà. Et vous savez le bien que ça fait. Donc voilà. Donc moi, je fais du piano, je me ressource beaucoup là-dedans. Mais mes parents étaient sans jouer d'un instrument de musique ou sans forcément pratiquer quoi que ce soit. Ils étaient extrêmement réceptifs. Mmh. Et donc le soir, on pouvait écouter un petit peu de musique moi, je suis très bavarde, hein, mais on prononçait pas un mot. Et il y avait une force qui nous réunissait, une émotion. Ouais, et ça, c'est la musique aussi. Et puis, ils étaient réceptifs. Voilà. Donc, pour en revenir à mes frères et sœurs, en fait, moi, je trouve que tout est joli parce que mes frères et sœurs, probablement que c'était compliqué pour eux, cette proximité avec le vieillissement, la maladie de papa, la fatigue de maman. Enfin, je sais pas, je parle à leur place et je trouve que c'est drôlement... C'est pas bien ce que je fais. J'aimerais pas qu'on fasse ça pour moi. Mais ce que je crois, c'est qu'ils ont autant aimé... ils aiment autant mes parents que moi. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie du tout. C'est juste que ils ont gardé peut-être une distance pour se protéger. Et ça, c'est... comment vous dire, loin de moi de juger cela. C'est leur liberté.
Bien sûr, bien sûr.
Et d'ailleurs, je vais être honnête avec vous, ils m'ont reproché un peu le contraire. Ils m'ont reproché de ne pas avoir assez de distance. Et ils m'ont dit, mais tu perds aussi des années de ta vie, là, Frédéric. Vous voyez ?
Mais pourquoi ça ? Pourquoi ça, en fait ?
Parce que ça peut s'entendre aussi. Parce que... Alors moi, je considère que j'ai rien perdu. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai reçu et je n'ai pas perdu. Mais il y a une... J'ai un peu... Enfin, comment vous dire, je ne peux pas dire que j'ai... En fait, il y avait mon travail et le temps que je passais avec mes parents. Mm-hmm. C'est vrai aussi.
Mais
ça.
Est-ce que cela vous a empêché de faire d'autres choses de votre
peu.
Point de vue? C'est-à-dire de faire
un
votre
peu,
vie
ça un petit peu, mais ça comptait pas, en fait. Et puis, j'en suis pas fière, hein, mais peut-être, il y a une chose qui est juste aussi, c'est que moi, je sortais, même si c'est déjà ancien, hein, je sortais d'une relation amoureuse un peu impossible, vous voyez.
Oui.
Je suis très douée pour ça. Mmh. Et c'était pour une histoire de religion, mais bon, c'était quand même... Il n'y avait pas de construction possible. Ça n'empêche pas que cette histoire a été très belle et m'a construite beaucoup. Et on s'est quitté. D'ailleurs, c'est pas bon signe quand on dit ça. On s'est quitté en très bons termes. Mais peut-être que j'avais aussi, vous savez, j'avais pas envie d'être amoureuse tout de suite. Enfin, j'étais pas prête. Mm-hmm. Et donc, en fait, peut-être aussi que j'ai des. Enfin, je me suis peut-être aussi cachée des choses à moi-même, hein, en accompagnant mes parents.
Mais c'est-à-dire, en fait, qu'après cette histoire d'amour, il n'y a plus jamais eu quoi
non.
que ce soit ?
Non, non, c'est triste, en fait.
Non, non, mais pourquoi ? Non, pourquoi ? Ça, vous voyez, je pense qu'on ne respecte pas assez le choix des uns et des autres. Il y a tout un tas d'idées comme ça reçues, qu'on doit faire sa vie, qu'on doit... je ne sais pas, enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'idées reçues dans nos sociétés, vous avez choisi la vie que vous vouliez,
oui.
vous aviez envie d'être proche de vos parents. Peut-être que ça vous rassurait plus. Peut-être que cette histoire d'amour que vous avez vécue vous a vacciné de, contre cette douleur.
Non, les âmes sont irremplaçables pour moi. C'est juste que, en fait, je suis très fidèle. D'ailleurs, ça s'entend peut-être quand je parle de mes parents. Et donc, vous savez, on dit tourner la page. Et moi, je dis non, maman, je ne tournerai jamais la page. Par contre, c'est plus, ça serait dangereux si mon deuil était, vous voyez, mélancolique, avec des images de mort, avec la pensée de la mort. Mais en fait, je vais être honnête avec vous. Peut-être que ça va changer dans 2 jours, ou dans 2 semaines, ou dans 2 mois. Mais pour l'instant, quand je pense à maman, j'ai que de jolis souvenirs. Et papa, c'est pareil, il n'est pas décédé. Mais quand on se parle, quand on se voit ou quand on se parle, c'est je ne dirais pas que c'est joyeux, parce qu'on n'est peut-être pas dans le temps des... Mais en tout cas, c'est pas triste. C'est plein de vie.
Oui, mais ça, mais encore une fois, c'est un choix.
Oui.
C'est un choix que vous avez fait. Et je crois qu'en plus, c'est très personnel, très intime. Donc, personne n'a à le commenter, ce choix.
Et puis, vous savez, je suis comme les autres. J'ai mes zones d'ombre. Oui, effectivement, peut-être que quand on fait... Et vous savez, c'est un petit peu comme les gens qui se consacrent à un bénévolat de façon... très 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 intensif, enfin intense, et parfois il y a une blessure dont ils sont pas toujours conscients et ils se guérissent de cette manière-là. Mais encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec vous. Qui sommes-nous pour juger? Enfin, chacun fait ce qu'il peut et chacun fait des choix en fonction de
chacun
ce qu'il
fait ce qui lui plaît, en fait.
Mais chacun fait ce qui lui plaît, et le désir, il y a rien de plus singulier.
Ouais,
une personne à l'autre, c'est totalement différent.
Exactement. Donc, d'où l'incapacité de bien jauger une situation, en tout cas une situation de désir de l'autre. Il n'y a que l'autre qui sait ce qu'il désire et pourquoi il le désire.
Oui. C'est pour ça qu'en fait, vous êtes d'accord avec moi, on juge tous, mais on se trompe vraiment. Parce qu'on est
on juge tous, oui. Enfin... On peut aussi s'abstenir. On peut s'abstenir de juger. On peut, observer,
en tout cas, on peut...
écouter,
oui.
Peut-être se faire une idée plutôt que juger. Juger, ça veut dire avoir un avis bien trempé sur une situation. Mais bon, c'est très large, hein, ce qu'on dit en fait. Quoi. Là, on parle du désir de l'autre
Pardon, excusez-moi.
Non, je dis le désir de l'autre. Je vous redis ce que je vous ai dit. C'est on ne peut pas juger le désir de l'autre parce que son désir c'est très personnel. Il n'y a que lui qui sait pourquoi il veut telle chose et ce qui l'anime, en fait. Voilà. Et la seule manière qu'on puisse comprendre, c'est peut-être de poser les questions si ce désir nous pose question, comme vos frères et sœurs qui, à un moment, vous ont commenté... cette situation en vous disant tu perds ton temps, tu passes à côté de... Ils auraient mieux fait de vous poser des questions afin de savoir ce que vous aviez vraiment dans la tête et pourquoi vous, aujourd'hui, et comme hier d'ailleurs, vous n'aviez pas l'impression de le perdre, ce temps.
Pas du tout.
Ben oui, donc pas de regrets.
Non, au contraire, c'est... Comment vous dire, vous voyez peut-être que J'ai 53 ans. Peut-être que ce temps qui arrive maintenant, c'est un petit peu tôt, là. En plus, vous savez, il y a eu l'épisode du coronavirus. Excusez-moi, parfois on a des mots malheureux. Mais vous savez, ça m'a happée parce que moi, dans mon travail d'infirmière, je ne suis pas confrontée à ce type de... D'ailleurs, qui était préparé à ça? Personne. Mais ça m'a happée dans le sens où, voilà, dans mon quotidien d'infirmière, je ne suis pas du tout confrontée à la réanimation, à la mort, à un équipement aussi strict, à une surveillance aussi stricte des règles d'hygiène. Donc voilà, je suis dans quelque chose de plus relationnel. Et donc ça m'a happée. Je ne sais pas pourquoi je vous parlais de ça. Pour vous dire qu'il faut aussi que je me remette de toutes ces... voilà, de tous ces passages. Il y a eu le deuil de maman, ensuite papa a dû quitter son domicile. Enfin voilà, ça, il y a beaucoup d'étapes qui se sont succédées. Et donc, mais vous savez, ce qui se passera après, une fois encore, je fais confiance à mon désir. Mon désir sera, c'est pas mon désir qui sera. Je saurai exprimer mon désir de ce que j'ai envie de faire maintenant. Et ça, et mon cœur, il est ouvert. Donc voilà, je sais pas comment vous dire. Rien n'est fermé, tout est ouvert.
Rien n'est figé, Frédéric.
Rien n'est figé. Mm-hmm. En tout cas, la mort de maman n'a rien figé. Mmh.
Tant mieux pour vous. En plus, je sens que vous avez, comme vous le dites, reçu et rien perdu, en fait. Donc, je pense que ce coup de téléphone a été très important, par contre. Il y a comme un signe dans ce moment-là, incontournable. Un moment incontournable. En tout cas, ça en fait un des moments incontournables de votre vie. Ce moment où vous vous êtes dit ces choses-là avec votre mère.
Il y a eu un autre épisode aussi. Après, vous regardez l'heure, parce que moi, je n'ai pas de montre sur moi.
Non, vous inquiétez. Il y a Jean-Yves qui attend et on va dans 5 minutes conclure.
Voilà. Ça compte aussi que quelqu'un d'autre puisse... Voilà, moi, j'aime bien la transmission, donc je passe volontiers le relais. Bref, oui, pour rendre justice à mes frères et sœurs... ils sont extraordinaires avec papa. Et vous voyez, c'est peut-être qu'il y a un temps. Chacun a son propre rythme et chacun a peut-être une histoire différente avec ses parents aussi.
Complètement. Il y a un lien particulier aux parents. Il y a un lien particulier à la vie, à l'idée de la mort, de la séparation. C'est encore très personnel, hein, ça, ce qui va définir nos envies, nos comportements, nos attitudes par rapport, mais aux parents comme à ceux qu'on aime, en fait.
Oui.
Donc, je sais en tout cas que l'autre jour, la discussion qu'on a me fait penser à une discussion que j'ai eue l'autre soir avec Isabelle, me semble-t-il, qu'elle s'appelait Isabelle, qui me parlait du départ de sa sœur, et elle avait beaucoup de mal à accepter. Bon, c'était un départ, sa sœur avait mis fin à ses jours, et il y avait donc toute la culpabilité qui entoure le suicide, en fait. C'est Cécile, me dit Florian, qui nous appelait l'autre soir, et le temps. Je vais lui parler du temps. Le temps dans ses départs, dans ses ruptures, dans... Bien évidemment, quand l'un des nôtres part, il y a une douleur, il y a cette idée insupportable qu'on ne reverra jamais comme ça. Moi, je sais que c'est ça qui m'a beaucoup écrasé lorsque j'ai vécu ça. Et après, le temps... Le temps transforme tellement les choses en ce qui ressemble à ce que vous dites ce soir, cette impression et ce sentiment, plutôt ce ressenti même, plutôt de ne penser qu'aux bonnes choses, aux belles choses qu'on a vécues, celles qui nous ont construites, celles qui nous ont définies dans ce rapport qu'on avait à son père, à sa mère, à un frère, à un ami. Et le temps... souvent nous ramène au bon. Et n'est plus dans l'instant de douleur, de tristesse qu'impose la mort, en fait.
Vous savez, moi j'ai une passion pour la peau. Enfin, c'est bête, hein, mais la peau, elle est parfois très abîmée. Et moi j'adore réparer la peau, enfin, faire un pansement... C'est drôle, hein. C'est comme si la peau des gens me parlait. Mmh. Je vais pas être complètement folle, mais...
Non, mais vous êtes infirmière,
Elle a quelque chose à me raconter sur eux. Ça, j'en suis convaincue. Et quand je soigne une plaie, comment vous dire ? Bien sûr, il y a quelqu'un. Hein, je soigne pas une plaie qui serait indépendante de... Je prends une personne en charge dans sa globalité. Et parfois, ça veut dire beaucoup, parce que personne n'arrive pas sans histoire, sans besoin auquel je pourrais peut-être pas répondre. D'ailleurs, enfin, ces personnes, c'est riche, c'est profond, il y a plusieurs dimensions. Et voilà. Mais pour ce qui est de la peau, et ben c'est vrai que c'est là où je vois quand même qu'il y a quelque chose de qui rejoint ce que vous avez dit sur le beau. Ce que je trouve très beau, c'est que quand on prend soin d'une peau, même parfois d'une plaie très... Au départ, c'est très mal parti. On voit la peau se réparer et il n'y a rien de plus joli. C'est, vous savez, cette sensation de... On n'est pas toute puissante, hein, loin de là. Ou tout puissant quand c'est des garçons qui sont infirmiers. Mais on n'est pas tout puissant. Mais le fait de réparer quelque chose, de voir quelque chose s'améliorer sous ses yeux, c'est aussi une autre forme de bon et de beau. C'est des toutes petites choses qu'on dépose, ouais. mais je crois que dans mon métier, ça fait partie de quelque chose de... Ça me nourrit toujours autant.
Mmh. Bah, c'est quand même le symbole de la réparation, hein. C'est ce dont vous parlez aussi. De l'amélioration, de la réparation.
Et vous voyez, d'un point de vue métaphorique, on a tous des plaies, parfois elles sont béantes.
Complètement. Mmh.
Voilà. C'est pour ça qu'en fait, là, j'ai utilisé le concret de mon travail, mais on a tous des plaies.
Tous, ça, sans aucune contestation possible. Même ceux et celles qui vous diront, mais non, je n'ai pas de plaies. Tous et toutes. C'est la vie. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de la vie, la force de la vie. Et c'est ce qui nous emmène, en fait. Vous me disiez, Frédéric, maman ?
Oui, mais il y a quelqu'un qui attend.
Oui, il y a quelqu'un qui attend. On va conclure, dites-le.
Voilà, parce que de toute façon... Oui, si, mais ça, je peux vous le dire en guise de conclusion. Mm-hmm. Maman n'aimait pas ses mains. Et voyez, comme je parlais de soins, de... Voilà, j'ai fait des pansements à maman. Et parce qu'elle avait un traitement qui faisait que de temps en temps, elle saignait. Et donc, sa peau, parfois, était trop fine pour ne pas être... il fallait faire un pansement. Et c'était des moments très, très plaisants. Parce que, d'abord, j'avais le temps. Donc, en général, elle avait pas mal. Et puis, vous savez, elle regardait d'un regard un petit peu... Enfin, elle avait beaucoup le sens de l'observation, maman. Donc, en fait, elle oubliait un peu que j'étais sa fille. Et donc, elle regardait en me disant... un petit peu comme elle aurait regardé une infirmière, finalement, faire un pansement. Alors que moi, je ne me sentais pas du tout dans ce rôle-là, vous voyez. Et je faisais beaucoup moins... J'étais très douce pour elle, mais je faisais beaucoup... Enfin, je compliquais pas les choses, hein, d'un point de vue... voilà, j'essayais surtout de ne pas lui faire mal et de faire en sorte que sa plaie ne s'aggrave pas, voilà. Et quand on prenait à temps, c'était vite réglé. Et maman, elle me disait... mais ça, elle savait que je manquais de confiance en moi, je vous dis, encore une fois. Et maman me disait, tu sais, tu as de jolis gestes. Vous voyez, ça aussi, j'oublierai jamais ça. Il n'y a qu'une maman qui vous dit des choses comme ça.
Complètement.
Tu as de jolis gestes. Mm-hmm. Et moi, je n'y ai pas pensé une seule seconde que mes gestes pouvaient être jolis. Enfin,
et non, mais c'est votre mère qui a fini par vous faire constater que sans doute vous aviez des jolis gestes, et tant mieux.
Est-ce qu'ils étaient jolis parce que j'étais sa fille, ou je sais pas, mais en tout cas ça prouve que cet échange à travers le geste aussi, parfois il était, enfin, en tout cas vous voyez, il était chargé d'une émotion très très profonde, et puis au départ, on a un tempérament relativement, peut-être pas opposé, mais elle le disait, elle, parfois opposé, parfois... Après, elle disait différent, et puis, en fait, vous savez, finalement, les différences s'entendent... Enfin, on s'entend bien quand on est différent. Mmh. Et c'est important de pouvoir se compléter. Et donc, il y avait une belle complicité. Mais tout en étant très différente.
Très bien, Frédéric. Bah, écoutez, merci pour ce témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite de continuer sur ce rythme et sur cette douceur-là, hein, de penser et de développement. Et n'hésitez pas à nous rappeler, hein, quand vous voulez.
Et moi, je voulais vous remercier de qui vous êtes, pour qui vous êtes. Parce que c'est... Il y a une telle authenticité. Vous savez, c'est quelque chose... C'est pas toujours... c'est pas si répandu que cela. Voilà. Donc moi, je vous remercie pour ça et pour qui vous êtes. Et de ne pas changer.
D'accord. Merci, Frédéric. Merci à vous. Bientôt. Bonne soirée. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.